Je suis très très content, mon Hachem, qu'il y a tellement de monde ce soir, que le cours est toute l'année. Et non, normalement, c'est le dernier cours de l'année. Mais comme c'est un bon signe, c'est un bon signe qu'il y ait tellement de monde, alors on va dire que c'est le premier cours de l'année prochaine. Comme ça, on démarre ici, avec une petite coupure de 1 ou 2 mois, mais c'est pas grave, c'est pour avoir plus d'appétit. Même les couples, des fois, ils se séparent un petit peu comme ça quand ils se retrouvent, ils se sentent bien. Alors, le dernier thème avec lequel a été choisi, c'est le thème du positif. C'est un thème très très important et qui en fin de compte donne une couleur un peu à tout ce qu'on va vivre durant toute sa vie. C'est très très important que la réalité, de toute façon, c'est la réalité, mais qu'on décide de la vivre bien ou de la vivre mal, c'est dans le cœur de chacun. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que les sages y proposent pour avoir cette approche-là qui, en fin de compte, change toute la vie. C'est que le monde est fait d'inverse. Le monde est fait d'extrêmes. Et ces extrêmes-là, il faut savoir est-ce que les extrêmes et les différences, elles se repoussent, ou est-ce que les différences, elles s'attirent. Par exemple, il y a le corps et le nefesh, le psychique de l'homme et le corps de l'homme, qui sont deux choses complètement différentes. Le olam hazeh ou le olam haba. Ce monde-ci, le monde matériel, le olam haba, le monde spirituel. Et le nim betartonim, le haut et le bas. On sait que le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde des anges, le monde de la matière, c'est deux mondes différents. Or, des rochers, la lumière et l'obscurité, c'est a priori deux choses qui n'ont rien à voir. Oui. Quand on allume la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Quand on est dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est deux choses complètement inverses. La vie et la mort, c'est deux extrêmes, oui, qui n'ont rien à voir. Le ra et le tov, le bien et le mal, aussi, ce sont deux choses qui se repoussent l'une l'autre. On ne peut pas imaginer le tov et le ra ensemble. Quand on voit du mal, on voit du mal. Quand on voit du bien, on voit du bien. C'est très difficile de voir le bien qu'il peut avoir dans le mal, et de voir aussi, des fois, le mal qu'il y a dans le bien. Parce qu'on n'arrive pas à les imaginer ensemble. Ruchaniut et Gashmiut, la spiritualité et la matérialité. Des fois, on dit ça, c'est de la spiritualité, et ça, c'est de la matérialité. Alors, des fois, on voit de la spiritualité qui est très folklorique, qui est très ambiance, qui est très. En fin de compte, c'est de la matérialité. Des fois, tu vois de la matérialité, mais qui est tellement pure, qui a tellement de sens, qui a tellement d'élévation, que ça devient de la spiritualité. Alors, c'est quoi la matérialité? C'est quoi la spiritualité? Le Gilui Ben Nistar, vous voyez, ce qui est dévoilé et ce qui est caché. Alors, même dans l'infiniment petit, même dans l'atome, vous savez qu'un atome, c'est fait de deux éléments, des électrons et des protons. Maintenant, les électrons, ils ont une charge qui est négative, et les protons, ils ont une charge qui est positive. Et les deux, ça forme l'atome. Donc, comment deux choses qui sont opposées, elles sont différentes, et en fin de compte, elles forment quelque chose de bien. Vous voyez, quand un homme, on regarde un homme et une femme, c'est deux galaxies, c'est deux systèmes, ça n'a rien à voir. C'est un miracle que ça arrive à tenir ensemble. Vous voyez, on voit les parents et les enfants, c'est incroyable. Comment on arrive à les supporter tellement longtemps? Vous voyez, bon, peut-être en souvenir de ce que nos parents supportaient de nous. Donc, on voit que c'est des extrêmes, mais en fin de compte, c'est ces deux extrêmes-là, elles se rejoignent et elles se retrouvent. C'est exactement pareil aussi que dans le comportement que quelqu'un il va avoir face au monde par rapport à la Torah. Des fois, la Torah, elle demande à quelqu'un de se concentrer énormément sur lui. Ça, c'est une mitzvah que quelqu'un il a de se rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est un travail par rapport à soi-même, de ne pas oublier Dieu à n'importe quel moment de sa vie. Et d'un autre côté, donc ça, c'est tourné vers l'intérieur. D'un autre côté, il faut tourner vers l'extérieur. Avec les cabelles, être la dame, les sévères panines, il y a tu dois accueillir toute personne avec un bon visage et faire du chesed et rendre l'objet perdu. Toutes ces mises qui sont tournées vers l'autre. C'est compliqué. Tu dois tourner vers l'autre, tu dois tourner vers toi. Même dans la vie, quelqu'un qui toute sa vie se pose la question, est-ce qu'il a été créé pour lui ou est-ce qu'il a été créé pour les autres? Peut-être qu'il est qu'un outil, peut-être pour sa femme, pour ses enfants, peut-être pour sa communauté, peut-être pour ses employés, peut-être pour la société. Peut-être qu'il a été créé pour lui. Alors on va lui demander à lui, qu'est-ce que tu as fait de toi? Lui m'a dit, mais moi je veux rien. Mais c'est dangereux. S'il arrive là-haut et qu'il avait été créé pour lui et il s'est occupé des autres, on lui a dit, tu n'as rien fait de ta vie. S'il a été créé pour les autres, il s'est occupé de lui, quand il arrive là-haut, on lui a dit, tu n'as rien fait de ta vie. Comment il va savoir? S'il s'occupe de lui, on appelle ça de l'égoïsme. Oui. S'il s'occupe des autres, on appelle ça de l'altruisme. D'un autre côté, s'il s'occupe des autres sans s'occuper de lui, donc qu'est-ce qu'il va apporter aux autres puisqu'il n'est rien? Il va apporter rien. Donc tu es obligé de t'occuper de toi pour être capable de t'occuper de l'autre. Une fois, une maman, elle était très très fatiguée, très très fatiguée, limite fragile. Je lui ai dit, écoutez madame, il faut partir 2 semaines en vacances. Elle m'a dit, je ne peux pas, jamais, Chas v'Shalom, je laisserai mes enfants gardés par une babysitter ou par ma belle-mère, Chas v'Shalom, c'est impossible. Oui.
je ne peux pas laisser mes enfants, c'est ma conscience maternelle qui m'interdit. Je lui dis, mais madame,
il vaut mieux qu'ils aient une maman absente pendant 2 semaines qu'une maman dépressive pendant 2 ans.
Ouais.
C'est un calcul. C'est un calcul, ouais. Ah, les gens rasent les chalons, et ils prennent le Prozac quand même. Ça, c'est des calculs qu'on fait tout seul.
Ouais. Un enfant, tu vas être dur avec lui, tu vas être gentil. Si tu es trop gentil, il en profite. Si tu es trop dur, il se braque.
Tu dis, bon, alors, je dois être gentil, dur. Dur, gentil. Alors, c'est la proportion. Maintenant, avec cet enfant-là, il faut être plus dur que gentil. Avec celui-là, il faut être plus gentil que dur. C'est compliqué. Le mari, si tu dis rien, il t'en profite. Si tu en dis trop, il te dit, c'est pas une femme, c'est un homme que j'ai trouvé.
C'est que la femme, la marque de la femme, c'est la courbe. L'homme, c'est la droite. La femme, c'est la courbe. C'est que la femme, elle va arriver au même résultat, mais elle va faire comme ça. Le mari, il va faire comme ça. Donc, maintenant, les femmes, malheureusement, elles sont éduquées au masculin. Alors, elles fonctionnent comme ça. Et ça marche pas. Alors, les hommes, comme ils voient que les femmes sont dures, alors eux, ils commencent à faire comme ça. Les femmes, elles fonctionnent au féminin, hein, les hommes au masculin et les hommes au féminin. Mais ça vient de quoi, ça? Ça vient qu'il y a des extrêmes qui sont nécessaires.
Ça vient court.
Ouais. Ouais. C'est qu'il y a des extrêmes et des différences qui sont nécessaires. Maintenant, c'est ça, exactement pareil dans la relation qu'on entretient aussi avec la faute. D'un côté, on parle de la teshuvah, on parle de la faute, et quelqu'un qui fait une angoisse pour lui. De l'autre côté, on dit qu'il y a quelqu'un qui fait une teshuvah par amour. Toutes les fautes qu'il a faites de manière involontaire, elles deviennent des mérites comme s'il avait une mitzvot. C'est pas possible. Donc, est-ce que la teshuvah elle-même, c'est une source de culpabilité, ou est-ce que la teshuvah, au contraire, c'est une source d'élévation et de bien-être, et de joie? Comment on doit regarder ça? Alors, Rav Dessler, il explique comme ça. Qui a l'aidé tachlit à kol tout? D'avoir mes féro, matzmichi ma tachlit. Si on donne un sens à ce qu'on fait, à chaque fois que la chose est inscrite dans un tahlit, dans un projet, dans un but, dans un objectif, les extrêmes, les inverses, ils deviennent bons. Mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une logique. Ça veut dire qu'on peut être différent, on peut vivre des difficultés, on peut avoir des grands problèmes dans la vie. Si ça s'inscrit dans un but, ça s'appelle du positif. Si ça ne s'inscrit pas dans un but, ça devient du négatif. Et c'est ça tout le problème. C'est comment, qu'est-ce que ça veut dire Matzmiach Yeshua? Oui. Que Matzmiach, c'est la Tzmicha, c'est ce qui fait germer, c'est ce qui fait pousser. Maintenant, la Yeshua, la délivrance, elle vient de la souffrance. On dit le jour, quand est-ce qu'il vient le jour? Au bout de la nuit. C'est un phénomène bizarre, oui. Il fait jour. Après, c'est le crépuscule. Après, il y a le coucher du soleil. Après, il commence à faire nuit. Donc, il fait nuit à 10h. Après, il fait nuit à 11h. À 11h, il fait plus nuit qu'à 10h. À minuit, il fait plus nuit qu'à 11h. À 4h du matin, il fait encore plus nuit. À 6h du matin, il fait encore plus nuit. Mais d'un seul coup, à 6h03, il fait jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jour est au bout de la nuit? Ça veut dire que la solution, elle est au bout du problème. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quand tu n'as pas encore assez mangé du problème, je ne sais pas trouver la solution. Tu n'as pas encore assez mangé du problème. Toi, tu veux vite te débarrasser. Tu dis, allez, donnez-moi une solution. Tu n'as pas encore mangé le problème. Nous, nos enfants, on veut les gâter. Alors, on leur évite les problèmes. On leur donne des solutions. Mais grâce à Dieu, ils restent des brèves. Parce qu'ils n'ont jamais eu affaire à la vie. Ils ont à combattre, à se mettre en situation. Alors, on veut éviter les chalons qui souffrent, qu'ils n'aient pas des problèmes. Alors, mais malheureusement, ils deviennent mous. Ils ne sont pas forts. Et c'est quoi là? C'est comme un acier trempé. Vous prenez un métal, un acier. Vous pouvez le tordre. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites chauffer. Quand il est rouge, vous le trempez dans l'huile, oui, et comme il se refroidit de manière brutale, les molécules, elles vont se resserrer. Ça s'appelle de l'acier trempé. Maintenant, cet acier-là, il est tellement dur que vous ne pouvez même pas le rayer. On s'en sert pour faire les mâchoires des étaux. Vous savez, un étau pour serrer, les mâchoires qui tiennent, celles-là, elles ne vont pas se déformer parce qu'on les a fait en acier trempé. Pourquoi? Parce que le métal, il est passé très rapidement d'un très chaud à très froid, et ça renforce. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Des fois, dans la vie, tu as un chaud et froid. Maintenant, nous, on a peur pour les enfants. Alors, on leur met toujours la température ambiante. Mais ils ne passent jamais du chaud et froid. Ben, des fois, tu réussis le bac, des fois, tu le rates. Mais c'est pas grave. Tu dis, si le rate, il peut avoir un traumatisme post-traumatique de 10 ans. Ouais. Des fois, la fille, elle dit oui, des fois, elle dit non. c'est pas grave. Des fois on marie, des fois on divorce. Les gens, ah, Hazbe Shalom, c'est une silénou. Il y a des vies, il y a des morts. Des fois le matin tu vas à une brite mila, l'après-midi tu vas à l'enterrement. Tu dis, ah, Hazbe Shalom, non, allez, mais c'est la vie. Maintenant, celui qui accepte la réalité, il devient trempé. Celui qui refuse la réalité, il devient mou. Et plus il fuit, et plus il est mou. Pourquoi ? Encore une fois. Parce qu'on a dit que ça s'appelle des inverses, c'est des extrêmes. Oui. Donc les gens, ils cherchent le bien, ils fuient le mal, oui, ils fuient leur peur, ils cherchent le bonheur, ils veulent quelque chose de parfait, ils veulent pas entendre des choses qui leur font de la peine, ils cherchent des gâteaux qui leur plaisent, ils veulent des situations qui leur plaisent. Ça s'appelle la situation bonbon. Les gens, ils ouvrent des paquets de bonbons, ils mangent. Mais des fois, c'est pas comme un paquet de bonbons, tu l'ouvres. Des fois, c'est comme la viande. Il faut aller amener la bête, il faut faire la shrita, après il faut le cachériser, après il faut préparer la viande, après il faut la mettre à cuire, après il faut la présenter, après il faut la manger. C'est long. Il y a des choses qui se font en 5 minutes, il y a des choses qui se font en 10 ans. T'es prête en 10 ans? Tu veux la complicité dans ton couple? 10 ans. Tu veux des enfants éduqués? 20 ans. Tu veux la stabilité dans le business? 10 ans. Tu veux être bien dans ta tête? 20 ans. C'est beaucoup de travail. Tu veux la facilité? Génération bonbon. Tu ouvres le paquet de bonbons. Il est bon, il est pas bon, tu jettes. Comme ça, les gens. Au mois de mariage, elle ne me plaît pas. Je suis très déçu. Il ramène chez ses parents. Il dit, regardez le paquet, il a fait ouvert. J'ai pris un ou deux bonbons. Reprenez-la. C'est impossible, ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, et ça, c'est marqué dans le pasouk, parce qu'on dit dans la prière, « Mémit ou mechaye » ou matzmiach Yeshua. Mémit ou mechaye, mémit il fait mourir, ou mechaye il fait revivre, ou matzmiach Yeshua il fait germer la délivrance. Rabotai, c'est celui qui n'a pas compris la mort, il ne peut pas comprendre la vie. Oui, celui qui n'a pas compris la mort, il ne peut pas comprendre la résurrection des morts. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il ne peut pas croire à la délivrance. Cet enfant-là, tu dis c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est foutu. Tu dis attention. Oui, tu es mérite, tu le tues. Si tu y crois, tu es méhaé. Mais comment je vais faire pour y croire? Il va être dégoûté. Matzmiach Yeshua. Il faut que tu trouves le germe de la délivrance à l'intérieur du problème. Parce que le jour, il vient au bout de la nuit, et l'obscurité, elle produit la lumière. D'accord? Et la souffrance, elle produit la force. Je dis, mais comment c'est possible? Je dis, je suis écœuré. Encore une fois, où on va faire comme des enfants? On va chercher ce qui nous fait plaisir. Où est-ce qu'on va être comme des adultes? On va comprendre que la vie, c'est pas fait pour se faire plaisir. La vie, c'est pour se construire. Mais alors, quand on est construit, ça fait plaisir. D'accord? Quand on n'est pas construit, ça fait pas plaisir. Mais on peut se faire plaisir, mais ça fait pas plaisir. Il y a des gens qui vont se payer des vacances de fou. Ouais. Voilà, ils ont dépensé 33 000 euros en 2 semaines. Alors, tu dis, qu'est-ce que ça fait? On s'est fait plaisir. Ce que tu as mangé, papa, tu l'as digéré. Une partie, tu l'as laissé aux toilettes. Une partie au cholestérol. Le bronzage, il va partir. Les amitiés de plage, je sais pas, Alain, tu les verras plus. Ouais. Les images que tu as vues, j'espère que tu as fait des vidéos. Ouais. Tout ça, ça va partir. Qu'est-ce qui va rester? 33 000 euros. Ah bah. Je dis, mais c'est pas grave. L'argent, ça va, ça vient. Mais qu'est-ce qui reste en fin de compte? Qu'est-ce qui te reste? Oui. Il te reste qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que c'est 33 000 euros? Mais tu as récupéré le contact avec ta femme. Tu as pris du temps avec tes enfants. Toi-même, tu as fait un bilan, tu t'es remis clair dans ta tête. Bon, c'est bien, c'est pas cher. 33 000 euros pour ça, c'est pas cher. Je dis, mais quand même, c'est quand même 33 000 euros. Un divorce, c'est en 70 000 en moyenne. Et tu es gagnant. Tu dis, mais on s'est parlé 3 fois dans les 2 mois. Ben si, des fois, ça, c'est ce que ça coûte. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut qu'ils aillent à Bali pour se tenir la main devant un coucher de soleil. Alors qu'à Milan, ils pouvaient le faire sur le canapé. Mais ils ne voient pas l'intérêt du souci. On ne peut pas. Il y a le travail, il y a les soucis, il y a la télévision, il y a les enfants, il y a la voisine. C'est compliqué de se concentrer. Oui. Ou quelqu'un, non, il ferme les yeux, il tient la main de sa femme, il est parti à Bali. Ouais. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est des inverses. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ça s'appelle Rocher. Rocher, c'est quoi? C'est l'obscurité. L'obscurité, c'est pas forcément quand il fait noir. L'obscurité, c'est quand tu vois pas clair. La lumière, c'est quand tu vois clair. Maintenant, il faut savoir que l'obscurité, ça fait peur, mais de l'autre côté, l'obscurité, ça attire. Deuxièmement, faire la tête, c'est attirant. Faire la victime, c'est attirant. Souffrir, c'est attirant. Mentir, c'est attirant. C'est une tentation. Mais attention, parce qu'on a dit, mina chocher, yotseor. C'est parce que tu t'es écarté de cette tentation de mentir que tu dis la vérité. C'est parce que tu t'es écarté de la colère que tu es devenu patient. C'est facile de se mettre en colère. Ah, j'ai les nerfs. D'accord, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, j'ai les nerfs. D'accord, bah alors. J'ai dit, vas-y, j'ai les nerfs, ça veut dire maintenant, moi, j'ai le droit d'avoir les nerfs, puisque j'ai les nerfs. Mais la bataille, les nerfs, c'est un crédit. Tu ne peux être nerveux parce qu'il y a quelqu'un qui est patient, qui te supporte. Va t'énerver sur une île déserte. C'est nerveux. Tu rates le train, par exemple, tu es avec ta femme, tu engueules ta femme. Tu rates le train, tu es tout seul. Il n'y a personne à qui gueuler alors tu. Tu dis, ben je l'ai raté. C'est incroyable, non? Heureusement que la femme, elle est là quand on rate le train. Sinon, on deviendrait nerveux. Oui. Bon, j'ai dit la femme, mais j'aurais pu dire... Bon, je ne veux pas d'autres exemples. Ah. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Et c'est quoi cette idée? Cette idée, encore une fois, c'est que tu constates dans la réalité qu'il y a des extrêmes, que tu constates qu'il y a des contraires. Maintenant, il faut que tu constates que ces contraires, ils sont nécessaires. Maintenant, où tu vas utiliser la nécessité de ces contraires, où tu vas les subir. C'est ça que c'est marqué dans, incroyable dans Midrash Rabba. C'est marqué Mi iten ta'or mitame. À propos de la paradouma là-bas, la Torah dit Mi iten ta'or mitame. Qui c'est qui va donner, qui c'est qui va apporter du pur de l'impur? C'est que la vache rousse, elle est pure. Le Kohen, il est pur. Maintenant, il doit purifier un homme qui est impur parce qu'il a été en contact avec un mort. On prend une vache rousse, on la brûle. Les cendres, on le met dans de l'eau. Donc la vache, elle est pure. On la met dans de l'eau qui est pure, avec un Kohen qui est pur. Maintenant, il prend de cette eau, il va asperger la personne qui est impure. Maintenant, celui qui a rendu pur, il est devenu pur. Mais lui-même, celui qui a rendu pur, il est devenu impur. Celui qui reçoit l'eau devient pur. Ouais. Et celui qui a purifié devient impur. C'est la paradoxe. Dans la vie, c'est pareil. Des fois, il y a des gens, tu veux les aider, soi-disant parce qu'ils ne sont pas bien, mais toi, tu es bien. Et en voulant les aider, c'est toi qui deviens tordu. Toi, tu voulais aider le déprimé t'a enfoncé encore plus que. Quand tu ne sais pas nager, ne fais pas d'être nageur. Si toi-même tu es fragile, ne commence pas à rentrer dans des grandes causes, d'aider les autres. Et de... Tu n'es pas capable. Alors, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ont tellement besoin d'être aidés qu'ils veulent aider dans l'espoir que l'autre, en retour, va les aider. Mais comme les gens qui attendent l'aide en général, ils veulent l'aide, c'est pas parce qu'ils sont capables de la donner, parce que s'ils étaient capables de la donner, ils l'auraient mis pour eux. Donc ils vont te manger, ça s'appelle des aspirateurs d'énergie. Et quand ils ont fini avec toi, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Comment tu vas faire? Ça veut dire que ne peuvent donner aux autres que ceux qui n'ont pas besoin de recevoir. Ne peuvent donner aux autres que ceux qui n'ont pas besoin de recevoir. Parce que celui qui a besoin de recevoir, il aura toujours le doute, est-ce qu'il donne pour donner ou est-ce qu'il donne pour recevoir. C'est pour ça que les gens sont déçus. Vous savez, vraiment, j'attendais pas une réaction comme ça. Même pas un merci, même pas. Alors, papa, tu es venu pour le merci ou tu es venu pour donner? Donc, si tu veux donner, il faut rien attendre. Comme dans la bourse. On te dit, vous voulez faire de la bourse? Alors, faites avec l'argent que vous n'avez pas besoin.
Il y a la carte.
C'est son problème à lui, c'est pas ton problème à toi. Toi, tu donnes. Tu peux pas dire à toi. Alors, tu sais, n'oubliez pas qu'il y a un carat à toi. Ça, c'est son problème à lui. Toi, tu as une mitzvah de donner, l'autre, il a une mitzvah de reconnaître. C'est son problème à lui. Mais quand moi je dis je donne à condition que tu reconnaisses, donc j'ai pas donné, j'ai acheté de la reconnaissance.
C'est
bien ou non? Ça s'appelle créer du chantage émotionnel.
Complume.
Moi je te donne et je te donne et j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai donné. Maintenant l'autre il reconnaît, il reconnaît pas, c'est son problème. C'est comme ça. Alors, ici, c'est marqué « Mi iten ta'or mitame » Oui. Qui va donner le pur de l'impur? Lo echad. Ça n'est pas le un, le unique. Regardez ce qu'il dit le Midrash. « Kegol Avraham mi terach » Avraham, de qui il est venu? De Terach. Terach, c'était un grand impur. Il a fait Abu Dazara. Terach, c'est de Tirha, ouais. Il dit « Chizkiya » Il est venu de Achav. Achav aussi, c'est un grand rachat. Il a fait un tzadik qui s'appelle Chizkiya. Yishaya il est venu de Amon, qui lui aussi était un rachat. Israël, lui offre des kochavim. On a pris les bénis Israël parmi les idolâtres. Alors il dit comme ça. D'où est-ce qu'il vient le monde futur? De ce monde-ci. Regardez ce qu'il dit. Miasaken, qui est-ce qui a fait cela? Mitzivaken, qui c'est qui a ordonné cela? Migazarken, qui c'est qui a décrété cela? Lo Yechido Shel Olam, ça n'est pas l'unique du monde. C'est qui Yechido Shel Olam? L'unique, c'est Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem il est Echad, Dieu il est un. Maintenant, il y a deux manières de dire Yechido Shel Olam. Tu peux traduire Yechido Shel Olam, ça veut dire l'unique au monde, l'unique du monde. Le seul qui est vraiment unique, c'est Dieu. Ça s'appelle Yechido Shel Olam. Mais il y a un autre langage. Yechido, c'est pas Minashon Yachid, c'est Minashon Meyahed. Il est Meyahed. C'est lui qui unit, ou il rend, ouais, il rend Yachad, il rend un. Ouais, tu veux ou non? En fait, par exemple, dans la prière, on dit les chaînes, les routes, les routes. Alors nous, on dit, bah, ça veut dire au nom de l'unité de Dieu. Mais c'est quoi l'unité de Dieu? Ça veut dire quoi faire l'unité? Tu veux faire que Dieu est un, il n'a pas besoin de toi, il est un. Pourquoi Dieu va être un? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas et que tu n'arrives pas à dire avec cela, pourtant c'est Dieu qui l'a fait, alors Dieu est deux. Dans ton cœur, Dieu est deux. Je suis très déçu, j'ai fait beaucoup de mitzvot et je ne vois pas les récompenses. Donc tu penses que Dieu il s'est trompé, Dieu est deux. Tu dis, je mange kasher, mais franchement, c'est difficile de faire Shabbat. Eh ben, Dieu il a dit la même chose, il a dit les deux, toi tu n'arrives pas à faire les deux. Donc Dieu est deux, il y a le Dieu du Shabbat et il y a le Dieu de la kashrout. C'est pas grave. Ouais. C'est-à-dire chacun sa religion. Yechido shel olam, ça veut dire ani mistakel al ha'chaim ve'ani ro'eh shehu meyached et ha'olam. J'observe la vie et je vois que Dieu, il est meyached, il fait les choses un. La justice, c'est quoi? C'est que je sais qu'un jour ou l'autre, cette personne-là, ce qu'elle a fait en bien, elle va le recevoir. Mais je sais aussi que cette personne qui a fait du mal, un jour ou l'autre, elle va le recevoir. Hier, j'ai raconté à quelqu'un, j'étais dans un mariage. Il y a un monsieur qui vient me voir. Il m'a dit, voilà, je voudrais vous présenter quelqu'un, un ami à lui, qui est un monsieur qui a fait des grandes études et tout ça. Et moi, il m'a dit, écoutez, il est un peu spécial, il écoute vos cours 2h30 par jour. Je dis, un drogué, c'est trop. Ouais. Même à Milan, je n'ai pas eu ça. Écoutez bien. Maintenant, ce monsieur, je promets, je commence une phrase, il termine la phrase. Je dis, la tristesse, il me dit, c'est la place que tu octroies à la douleur. Ça, il finit les phrases. Et bien, imaginez-vous que ce monsieur, il s'appelle Ali et il est musulman. Musulman. Un arabe. Incroyable. Par cœur, il connaît par cœur. Maintenant, pas un arabe. Un arabe, je dis, il a fait Bac plus 8, et il a une tête incroyable. Il m'a dit, monsieur Iria. Il m'a pas comme ça. Il m'a dit, écoutez, monsieur Iria, j'ai prêté votre livre à un des plus grands, un grand ministre en Algérie. Il dit, il fout du bien. Maintenant, moi, j'ai peur. Ouais. Il m'a dit, le dimanche matin, il y a une émission. Après le Eisenberg, là-bas, il y a un truc musulman. Le responsable là-bas, c'est un chalak, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, il a écouté votre cours, il est devenu fou. C'est incroyable, non? Les juifs, tu les payes, ils ne veulent pas écouter. Les juifs, tu leur dis c'est interdit, ils veulent écouter. Je pense à interdire aux juifs, peut-être ça va aider. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, comment quelqu'un, il a compris le ichoud, il a compris l'unité des choses. Ouais. Alors ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te raccordes avec les choses, tu arrives à accepter les choses, tu arrives à vivre avec la chose. Comment tu as fait? Parce que tu as vu que c'est miyuchad, ouais, c'est spécial, et tu as vu que c'est yahid, c'est un. Mais c'est difficile, on appelle ça en français se réconcilier. Tu arrives à te réconcilier. D'accord? Un autre, il est venu, il m'a dit, ah, j'ai trop souffert avec mon père, j'ai trop souffert. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Ou celui-là, il m'a fait du mal. Je dis, il faut que tu réussisses à séparer l'événement de la personne. La personne, c'est Dieu, l'événement que c'est Dieu qui t'a envoyé. La personne, elle a joué l'intermédiaire, l'applicateur, l'agent applicateur. Maintenant, l'agent applicateur, c'est 2% de l'événement. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Ouais. Donc l'événement lui-même, il n'est pas entre les mains de cet homme-là. C'est vrai qu'on appelle la Bechira, le libre arbitre, on appelle Nekudat à Bechira. C'est un point. Le libre arbitre d'un homme, c'est un point. 99%, c'est des circonstances qui sont créées par Hachem. Donc quand j'ai un événement avec quelqu'un, c'est pas la peine que je prenne la tête à avoir la haine pendant 10 ans. Parce que de toute façon, ce problème-là lui-même, il me ressemble à moi, il est lié à moi. Donc si moi j'accepte de séparer l'événement de la personne, bien que j'ai une tentation de développer la haine et la rancune comme ça, moi, pendant ce temps-là, je peux penser que c'est son problème, ça m'évite de penser que c'est le mien. Ça va? Je dis l'enfant il est nul parce qu'il ne travaille pas à l'école. Je pourrais dire que j'ai un peu ma part dedans puisque je ne lui parle jamais. Ça n'a rien à voir. Mon père aussi ne m'a pas parlé. Bon, mais tu as fait une dépression. Oh, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que dans chaque événement, je peux voir le bien, je peux voir le mal. Je peux voir ce qui me fait plaisir, je peux voir ce qui me dérange. Si j'arrive à me réconcilier avec ce qui me dérange, j'ai réglé le problème. Ça va? Mais c'est une tentation hein, très forte. Sachez que les trois quarts, j'ai dit mille fois, mais il faut leur entendre. Les trois quarts des couples n'ont pas de problème de couple. Les trois quarts des couples ont des problèmes personnels qui dégénèrent en problème de couple. J'étais une compagne cette semaine. J'ai dit au Khatan Nakala, j'ai dit, toi Khatan, occupe-toi de tes problèmes à toi. N'essaie pas d'éduquer ta femme. Si c'est une demeurée, il ne faut pas l'épouser. Voilà. Toi, cher Kala, ton mari, il est bien. Ne dis pas, je vais l'arranger, je vais l'améliorer, je vais le sculpter. Toi, occupe-toi de devenir extraordinaire, toi. Et lui, qui s'occupe de lui. Mais vous deux, occupez-vous du couple. Qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, chacun, il veut s'occuper de l'autre. Pendant que tu t'occupes de l'autre, tu ne t'occupes pas de toi, parce que tu penses que le problème vient de l'autre. Deuxièmement, tu ne t'occupes pas du couple, puisque tu t'occupes de l'autre. Donc le couple, il reste un couple de nul. Chacun il reste nul puisque chacun ne s'occupe pas de lui. Et l'autre il ne va pas s'améliorer puisque l'autre il voit que tu t'attaques à lui, donc il s'attaque à toi. Donc chacun n'a pas évolué, le couple n'a pas évolué. Ouais, alors ça servait à quoi ce mariage? Maintenant moi je te donne l'exemple, toi et la femme. Mais c'est pareil, toi et le travail. Chaque après-midi je marche avec mon fils. Au Hachem, il finit la troisième, il est en rentrant. Je lui dis, mon fils, tu sais, tu vas rentrer à l'Yeshiva l'année prochaine? Il m'a dit oui. Je lui dis, mon fils, à quoi ça servit l'école? C'est bien, non? C'est une bonne question. Moi, je vous mets au défi demain de rentrer chez vous et de demander à vos enfants à quoi ça sert à l'école. Vous allez comment par faire? Ils savent pas. Ils disent, ça sert à apprendre des choses. Je dis, ça sert à rien de faire de Napoléon qu'il est mort à Sainte-Hélène. Ça change quelque chose dans ta vie? Ils savent même pas à quoi ça sert. Ça veut dire quoi? C'est que la personne... Mettez-vous la réflexion. Que la personne, elle ne peut pas grandir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas accepté que la différence entre elle et ce qu'elle veut devenir, c'était pour grandir. Donc, tu veux ou non? Par exemple, toi, l'enfant et le niveau de la classe, c'est une occasion de grandir. Lui, il peut le prendre comme un complexe. Lui et l'école, il peut le prendre comme un défi ou le prendre comme une destruction. Les remarques de son père, il peut les prendre comme une invitation, ou il peut les prendre comme une occasion de casser. Les remarques de ton mari, les remarques. Toute la vie, c'est comme ça. Donc ça veut dire que quand moi je vais accepter. Bon,
toute la vie, quelle est la solution? Mettant en fait de défauts.
Je suis obligé.
La solution.
J'ai dit, Mina recherche de ses or. D'abord, j'explique bien le prochain. Et la lumière, elle va
la lumière.
Comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Vous voulez un débat?
C'est lui qui n'avait pas.
C'est lui.
Détendez-vous les deux. Je fais un compas. Donc ça veut dire quoi? C'est un couple. C'est un couple. Donc ça veut dire quoi? L'Égypte et le Liban, Provence. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Peut-être l'Irak. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est qu'en vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une réalité. Maintenant, pour nous, la croyance, c'est cette relation intime que j'entretiens avec la réalité. Maintenant, chaque fois que j'accepte la différence entre moi et la réalité, ça veut dire que c'est une occasion de grandir. Je peux l'accepter ou non. Quand je la fuis, ça ne me fait pas grandir. Je reste sur place. Quand je l'accepte, c'est-à-dire que j'accepte qu'en vérité, cette réalité, elle rentre dans un certain calcul. Le bon Dieu, il a un calcul. En français, on appelle ça « donner un sens ». Maintenant, quand tu ne donnes pas de sens, on dit que c'est insensé. Ce qui est insensé, c'est insupportable. Les enfants, ils ne disent pas insensé, ils disent injuste. C'est injuste. Quand c'est juste, ça veut dire que ça a un sens. Quand ils ne comprennent pas, ils appellent ça injuste. Maintenant, les enfants, il faut leur expliquer ce qu'on leur fait. Vous voyez? Mais pas toujours. Parce que dans la vie aussi, des fois, ils ne comprendront pas. Maintenant, s'ils sont habitués toujours à comprendre, quand ils ne vont pas comprendre, ils vont craquer. Mais dans la vie, on ne comprend pas toujours. des fois on comprend 10 ans après, des fois on comprend 20 ans après. T'es prêt à ne pas comprendre. Ici, c'est ce qui est marqué, c'est que quand c'est ce qu'il dit le Rav Dessler, mais lui il dit en deux mots. Il dit quand tu fais rentrer les inverses à l'intérieur d'un tachlit, oui, ça devient du tov. Donc toute l'idée, c'est quoi? C'est ça. C'est comme les rails de train. Par exemple, vous avez déjà marché sur une voie ferrée. Vous voyez bien que les deux rails sont séparés l'un de l'autre. Celui-là, il est là. Ils sont bien séparés. Ils sont vissés. Ouais, ils sont dans le parterre. Ils ne vont pas bouger. Hein. Ils sont à plus d'un mètre chacun. Mais quand tu regardes comme ça, tu dis, on dirait qu'ils se touchent. Ça s'appelle la perspective. Ouais. Ce que tu vis maintenant, toi, tu le trouves mauvais. Mais quand toi-même, tu as vieilli et que tu regardes ton passé, tu dis, en fin de compte, c'était du bien. Alors, comment ça se fait que quand tu le vivais en tant qu'enfant, tu le trouvais mauvais, et avec le recul, tu trouves que c'est du bien? C'est la perspective. La perspective, elle fait se rejoindre le nécessaire et le réel. Maintenant, il y a des gens, je vous dis la vérité, toute leur vie, elle s'est fait. Non, pourquoi je dois supporter? Pourquoi je dois accepter? Pourquoi je dois prendre sur moi? Eh bien, c'est à lui, c'est à elle. Elle a qu'à craquer, elle a qu'à crever. Eh bien, en fait, ils sont restés des enfants. Parce qu'ils confondent, ouais, ce qui est injuste de ce qui n'a pas de sens. Donc, toute leur vie, ils sont dans la rébellion. C'est pas normal. Et pourquoi? Et pourquoi? Ah ben, mais c'est comme ça. Le médicament, il est amer, mais il te soigne. Tu fais l'opération. Ouais. C'est pour remettre le pied droit. Tu dis, mais, et après on va faire la rééducation, oui, avec un agent du KGB, oui, mais il va te tordre le pied tous les jours, le kiné, oui, t'es prêt? Non. Alors restez avec le pied tordu. C'est pas grave, ouais. Les erreurs que tu as faites, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te les fait épouser. Parce que ta femme, ce qu'elle attend de toi, c'est que tu donnes le meilleur. Donc pour donner le meilleur, tu vas être obligé d'évacuer le mauvais. Donc, ce que tu as de mauvais chez toi, tu l'épouses chez ton mari. Donc, ton mari va t'obliger à changer. Donc, regarde le calcul qu'il a fait, que ton kiné, tu l'as épousé. Ton kiné, le masseur. Le physio. Il va te remettre droit. Ouais. Et tout le travail de physio que tu n'as pas fait avec ton mari et ta femme, tu vas le faire avec tes enfants. Mais tu l'acceptes ou non? Encore une fois, si tu dis, mais comment le bon Dieu, il est précis? Tout ce que j'ai cassé, que j'ai embrouillé, que j'ai traloué, que je crois disant, je l'ai réglé, voilà, je l'ai avec mes enfants. Donc le bon Dieu, lui, tu ne peux pas trop tricher. La vie, tu ne peux pas le tromper. Je disais déjà dernière fois que les choix que l'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. C'est des précisions comme ça. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Moi, je dis, voilà, j'accepte. J'accepte la situation. Et dans cette situation-là, le fait de l'accepter, ça va faire germer la Géoula, la Yeshua. C'est-à-dire que le positivisme, c'est une manière de regarder la réalité. Maintenant, comment je vais regarder une réalité qui est mauvaise? Alors, il y a deux manières. La première manière, c'est quoi? C'est que je vois le mal, je vois le mal. Maintenant, je renonce au mal et je vais vers le bien.
Et si on voit toujours le mal,
je dis... Bon, deux minutes. Il y a une deuxième manière, c'est que je ne vois pas le mal. Pourquoi? Deux minutes. Maintenant, celui qui voit le mal, il y a deux lectures. Il y a celui qui voit le mal, parce qu'en disant français, il est conscient, il est réaliste. Mais le fait de voir le mal, c'est aussi une tentation de s'installer dedans.
De
s'installer dedans. J'ai expliqué plusieurs fois, il y a des gens, ils sont perfectionnistes. D'accord? Ça veut dire quoi, perfectionniste? Ça veut dire qu'ils recherchent la...
Perfection.
Non, l'imperfection. Parce que là où ils regardent, c'est imparfait. Toujours je donne cet exemple. Tu fais un puzzle de 24 000 pièces. Un puzzle, 24 000 pièces. Vous voyez? Tu as mis 14 ans pour le faire. Il manque une pièce. Tu montres le puzzle. Il est magnifique. Il représente la grotte de Lascaux. Oui. Chaque fois que tu montres... Il manque une pièce. Pourquoi c'est comme ça? Tu fais un super gâteau, tu dis, demain j'ai un défaut là. Tu offres une robe à quelqu'un, il y a un fil qui est tiré. Je l'ai offert. Il y a un fil. Non mais c'est pas grave, c'est juste pour te dire. Hein, c'est rien. C'est bon, je meurs. Et tu l'as vu le fil. Dis, ça peut faire. Pourquoi l'autre il voit le défaut? Pourquoi il voit le mal? Oui.
Alors je te dis, de voir le mal, c'est il faut être une énergie très très positive pour que malgré que tu vois le mal, tu fais comme si tu n'as rien vu et tu vas chercher le bien. Parce que sinon le mal, ça devient un piège et tu t'arrêtes. Et tu t'installes dans le mal. Et pourquoi? Et comment? Et qu'est-ce que j'ai mérité? Et c'est pas normal? Et qu'est-ce qui m'arrive? Ou tu es en train de faire quoi là? Toi tu as pris le bois, tu l'as mis comme ça, après tu as mis un deuxième bois, tu l'as cloué, après tu l'as mis debout, tu l'as planté, une forme de croix comme ça, tu es monté et tu as cloué une main, après tu as cloué l'autre main et tu as laissé. C'est un gars de chez nous, il a fait ça il y a 2000 ans, peut-être, oui. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, l'égoïme, ils appellent ça porter sa croix. Tu portes ta croix. Ouais. En nous, c'est la magaine d'Ali. D'accord? Il y a des gens qui portent, d'accord? Ma vie, ma femme, ma souffrance, mon corps, mes nerfs, mon caractère, mon père, ma mère, ils portent. Ils portent un plaisir à alourdir leur charge. Ils ont une vie d'une lourdeur. Tu dis, ils vont mourir, les gars. Donc maintenant tu dis, mais objectivement, il y a des problèmes, tu connais sa femme, tu connais ses enfants, il y a des problèmes objectivement, d'accord? Alors je t'ai dit, tu vois le mal, ouais, tu t'écartes du mal, ouais, et tu cherches le bien. Ça c'est la première manière de positiver, mais tu es conscient. Il y en a un autre maintenant, lui, il ne voit pas le mal. Il y a du mal, il ne voit pas le mal. Il ne voit pas. Tu lui montres une maison toute cassée, il dit, voilà comment on va l'arranger. L'autre il dit, t'as vu tout ce qu'il y a comme travail à faire? Bah alors celui qui ne voit pas le mal, il a un défaut, c'est qu'il est inconscient. Mais tu es fou, mais tu n'es pas réaliste, tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il faut faire, il ne voit pas le mal. Ouais. Tu commences à lui parler de quelqu'un, ouais. Il y en a un, dès que tu lui parles de quelqu'un, il a 39 lachonara qui vient. Là tu parles de quelqu'un, tu dis, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est sérieux. Ah mais toi tu vois les choses, tu es trop niais, tu es trop simple, tu vois, tu es trop tam. Il ne voit que le bien. C'est un choc qui fait, oui. Alors vous croyez que celui qui voit que le bien, il voit pas le mal. Cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'une personne, en vérité, à l'intérieur d'elle-même, elle a un capital très très important que ses parents lui ont donné, que la vie lui a donné. Ça fait un capital de simcha, un capital de joie. Maintenant, toute la vie, on va puiser dedans. Moi, je rencontre des milliers de personnes. Je peux vous dire, selon la réaction des gens, selon le niveau de combativité, selon le respect qu'ils ont des autres et d'eux-mêmes, je peux vous dire à peu près comment elle était leur jeunesse. Mais c'est normal. Parce que tu sais, un arbre qui n'a pas été bien arrosé, il a poussé tordu, il a poussé très loin. Donc les enfants, on leur donne un capital. Après, ils commencent à puiser dedans, et après eux-mêmes, ils vont recapitaliser. Ouais, ils prennent de la joie dans leur travail, de la joie dans leur Torah, de la joie dans leur couple, de la joie dans la vie. Ils prennent. Mais celui qui n'a pas de capital, comment il va faire? Maintenant, il y a une tentation, je vous dis, de gaspiller son capital. Pourquoi? Parce que tu dis, quand j'aurai plus de capital, l'autre, il va être obligé de le prendre en charge. Maintenant, quelle différence entre jouer au casino et après dire, mon père, il va payer, faire une dépression et dire, de toute façon, ma femme, elle va supporter? Quelle différence? Il y a même des gens qui font de la victimisation devant leurs enfants. C'est grave. Genre, tu prends ton fils de 8 ans, il va dire, allez, papa, vas-y. Alors, qui c'est qui va lui dire à lui, vas-y? Et si Bémet, il l'a fait, et qu'il a gaspillé son capital de joie pour toi, qui c'est qui va lui remplir le sien? Vous suivez, non? Toute la vie, c'est comme ça. Pourquoi j'ai dit, pourquoi des parents n'ont pas le droit de se conduire comme des gamins? Parce que quand ils se conduisent comme des gamins, ils obligent leurs enfants à se conduire comme des adultes. Maintenant, si à l'âge où l'enfant il avait le droit de rêver, on l'a obligé à assumer. Le jour où il va devoir assumer, il aura envie de rêver. Et c'est logique. C'est évident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle prend un capital, elle investit. Elle prend un capital, elle investit. Alors quand elle va l'investir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir devant elle, elle va voir des choses qui ne vont pas. Mais au lieu de les prendre comme des obstacles, elle va les prendre comme des défis. Au lieu de voir un bâton qui le frappe, elle voit une perche qui est tendue. C'est la même situation. C'est la même situation. Pourquoi l'autre il voit, ça va pas aller, ça va pas aller? Oui.
Je me dis, mais c'est très dur, la vie elle est dure. Mais la vie elle est pas dure. Je dis, mais c'est toi, t'as pas confiance en toi. Viens, on va faire un travail sur la confiance en soi. D'un seul coup, la vie elle est facile. Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire quoi? C'est trop, c'est impossible, je suis pas préparé, j'y arriverai pas. Pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à être positif? Il croit parce que la vie est difficile. Il croit parce qu'il n'a pas de chance. Il croit parce qu'il n'a pas de mazal. Il croit parce qu'on l'aime pas. Il croit parce que les gens ne le comprennent pas. Mais c'est inutile. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui s'aiment, on les aime. Les gens qui se trouvent beaux, on les trouve beaux. Les gens qui ont confiance en eux, on a confiance en eux. C'est bizarre, non? Ça veut dire quoi? Tu peux démarrer avec le déficit ou tu peux démarrer avec le capital. Et si quelqu'un va dire qu'on ne peut pas avoir le capital quand on n'a pas encore le capital, ça va? Mais c'est faux. Une fois, comme ça, un garçon est venu, il m'a dit, ah mais frère, j'ai un problème. C'était l'année dernière, je crois que je vous ai raconté cette histoire, je ne sais plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai raté le bac l'année dernière. C'était l'année dernière. Il me dit, j'ai raté le bac. Et après, j'ai raté le bac. J'avais tellement l'angoisse et tout ça. J'étais avec ma maman, on était au marché. Et on a rencontré une copine à elle. Et, la copine à ma mère, elle a dit à ma mère, et ton fils, il a eu le bac? Moi, j'étais à côté. Alors, il a dit, non, il n'a pas eu. Elle a dit, quoi? Tu n'as pas eu le bac? Elle a regardé le garçon, tu n'as pas eu le bac? Elle a dit, mais même mon fils qui est complètement. Il a eu le bac.
Voilà.
Ça veut dire un nain, un haram, un bêtement, il a eu le bac. Et toi, tu n'as pas eu le bac. Et, alors, le garçon me raconte ça à moi. Il m'a dit, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai des douleurs au ventre, j'ai des brûlures, j'ai des crampes d'estomac, j'ai envie de mourir. J'ai... Alors mais il m'a dit j'ai devant un spécialiste, on a fait une électro, je sais pas comment j'ai avalé, on a fait la radio des poumons, de l'estomac, et j'ai peur d'avoir un ulcère ou là. Je dis, tu es bien jeune, tu n'as pas une tête d'ulcéreux du tout. Je lui dis, mais dis-moi, est-ce que tu as travaillé pour ton bac?
Non.
Il m'a dit, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai ce que tu as travaillé, oui ou non? Il m'a dit ce que je devais travailler, j'ai travaillé. Bon, on va faire le contraire. Tu es sorti toute l'année, bien sûr, les boîtes de nuit, les copines, les sauts, l'ambiance, les vitamines, ah, c'est normal. Après, il m'a dit sur Internet, j'ai trouvé un programme, ça s'appelle J-15. J-15, c'est-à-dire le genre, le bac moins 15. 15 jours avant, en 15 jours, tu peux gagner un an. C'est extraordinaire, J-15. Ouais, mais même pour la chaise électrique, ils ont fait J-15. Et d'ailleurs, il était au courant, ça se voyait. D'accord. Je lui ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune croix au carré. Tu as glandé? Il m'a dit, j'ai glandé. Je lui ai dit, est-ce que tu as glandé? Il m'a dit, non, jusqu'à ce qu'il a accepté. Je lui ai dit, quand tu vas accepter que tu as glandé, tu n'auras plus mal à l'estomac. C'était difficile, parce qu'il a l'orgueil, il a gagné. Ouais. Après, il m'a appelé le lendemain, il m'a dit, hey, j'ai plus mal au ventre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai compris, j'ai rien fait. Il a compris qu'il n'a pas travaillé. Ouais. C'est quoi l'idée? L'idée, quand quelqu'un il accepte qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, alors maintenant il comprend le sens du fait qu'il a raté. Alors regarde dans le sens contraire. Quelqu'un il a travaillé, il a bien travaillé, d'accord? Il arrive à l'examen, mais le sujet qui est devant lui ne le connaît pas. Il ne connaît pas le sujet. Mais comme il a bien travaillé, il est sûr de lui. Comme il est sûr de lui, il a dit, ben, je vais faire ce que je veux. Et il va réussir. Maintenant, l'autre, il n'a rien fait. Il n'a pas travaillé. Comme il n'a pas travaillé, ouais, mais il tombe sur un sujet qu'il connaît. Mais il est paralysé par ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Et il ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Comme il n'a pas travaillé, il n'a pas confiance en lui. Donc ça veut dire que tu trouves des gens qui sont idiots, mais ils ont confiance en eux, ils vont mieux réussir que des gens intelligents qui n'ont pas confiance en eux. Mais la confiance en soi, elle vient du travail. C'est que quand tu travailles, écoutez bien ce que je dis, quand tu travailles, 20% c'est pour acquérir les connaissances, ouais, mais 80% c'est pour que ta conscience, elle te dit, mais j'ai fait ce que j'ai à faire. Donc comme tu es sûr de toi, tu vas aborder la réalité de manière positive, donc même si elle est difficile, tu vas la sublimer, tu vas la dépasser. Mais quand tu l'abordes de manière négative, ouais, parce que tu n'as pas travaillé, donc déjà tu as un problème. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité le fond du fait d'être négatif, ouais, ben c'est la culpabilité, c'est le manque de confiance en soi, c'est le manque de respect de soi, c'est le manque de émouna en Dieu, en toi. C'est ça le problème. C'est que moi-même j'ai créé le terrain, moi-même j'ai créé le vide. Donc le contraire c'est quoi? C'est que je laisse pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Le mouvement, je le maintiens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait un cours comme ça, mais chez quelqu'un, c'était un petit groupe. Ah, il m'a dit, écoutez, Rav Echir, moi je suis vos cours depuis des années. Il m'a dit, mais quoi, mais ça veut dire, c'est trop difficile, alors ça ne s'arrête jamais. Tout le temps tu réfléchis, tout le temps tu te remets en cause, tout le temps tu te réserves, tout le temps tu évolues, tout le temps tu as des projets, tout le temps tu cherches, tout le temps tu... Mais c'est trop. Et quand est-ce que tu te reposes? Je t'écoute, à 120 ans, on va tous se reposer. Et pour longtemps, ça s'appelle le repos éternel. Là, c'est marqué 6J. 6J. Ici repose. C'est marqué ici repose. Ça veut dire que, en fait, en fin de compte, le cimetière, c'est un dortoir. Un grand dortoir. Maintenant, la question, elle est de savoir pourquoi est-ce que la tentation, c'est de dormir le plus tôt possible.
Qui a cette tentation?
L'autre, il dit, pourquoi je vais travailler? De toute façon, mon père, il travaille, donc moi, je me repose. Ah. Pourquoi je vais travailler les midotes? Ma femme, elle supporte. Pourquoi je vais être gentil? Mon mari, il supporte. Donc moi, je me repose pendant que l'autre, il travaille. Mais Rabotai, c'est impossible. Parce que toi, tu ne travailles pas. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas l'assurance. Quand tu n'as pas l'assurance, tu as encore moins confiance. Et comme tu as encore moins confiance, tu travailles encore moins. Donc plus tu vas, plus tu t'enfonces. Plus tu te détruis,
plus il se
repose. Et plus tu accuses les autres. Et moins ça s'arrange.
Et plus il se repose aussi.
C'est pour ça que ça ne s'arrange pas. Oui. C'est ce qu'ils disent. Après, ils disent, j'ai pas de mazal, Dieu m'a oublié, la vie elle est mal faite. Regarde, celui-là, tout marche pour lui, mais lui, il marche pour tout. C'est pour ça que je vous ai dit un million de fois, mais c'est, je répète des choses, mais il faut que ça soit gravé. Quand c'est marqué Ubechou Kota et Telechou, ouais, et dans mes lois, vous irez, Telechou, ouais. C'est quoi Telechou? Vous irez, ouais. C'est un mouvement. C'est quoi le contraire de d'aller? S'arrêter.
S'arrêter.
Et quoi encore? C'est quoi le contraire d'aller?
Reculer.
Retourner.
S'attarder. Retourner.
Ouais,
il ne donne jamais la réponse des gens. Le contraire d'aller, c'est laisser aller.
Tu as compris? J'avais déjà dit il y a deux fois.
Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je parle.
Tu parles seul, par exemple.
C'est bon. Donc ça veut dire quoi? Non, mais c'est, essayez maintenant de faire entrer ça. Il y a la fête, Hachem le crabe et Hachem Ota, elle les ravecha. Mais c'est bien que vous soyez là, mais le plus important, c'est que vous partagez quelque chose. Mais si vous avez compris cette phrase, mais c'est énorme. C'est quoi la tentation la plus grande? C'est de se laisser aller. Pourquoi je vais faire? De toute façon, la vie, elle va passer. De toute façon, on va manger, on va dormir, on va aller aux toilettes, on va faire les enfants, on va faire. Ben non, où je peux être actif dans cette réalité, ça peut être les roues, où je vais me laisser aller. De toute façon, les enfants, ils vont passer de classe. De toute façon, ta femme, elle va s'assumer. De toute façon, ton mari, il va payer, il ira, mais il paye. D'accord ou non? Donc la vraie question, c'est est-ce que tu as participé ou non? Parce que de toute façon, la vie, elle va passer. Comment non, les années elles vont passer, les rides elles vont venir, tu vas vieillir, de toute façon tout va passer. Donc ça sert à rien de dire, oh ben j'espère que ça va pas aller trop vite, ou là que ça va durer longtemps. Les gens ils veulent avoir une vie plus longue, une vie plus courte, une vie plus intense, une vie. Mais non, il faut avoir une vie plus vraie. Et c'est quoi être vrai? Être vrai, c'est être dans sa réalité. Donc quand tu es dans ta réalité, ça s'appelle beaucoup Kotaï, t'es les roues. C'est ça, allez. Parce que c'est dynamique, c'est moi qui l'arrête, c'est moi qui me lève le matin, c'est moi qui vais à la prière, c'est moi qui prie, c'est pas... Je prie, que je suis obligé, j'ai un graquis, j'ai devant le livre, alors je prie. Donc c'est, t'as pas prié, t'as prié parce qu'il y a le livre et parce qu'il y a tout le monde. Tu dis, ben t'as pas prié, tu sais très bien que t'as pas prié. Ta tête, tu vois bien qu'elle était ailleurs, donc t'as pas prié. T'as mis les tefillines, t'as fait le schéma, j'ai oublié que alors t'as pas fait le schéma. Mais quand je l'ai fait, j'ai dit schéma, la chèvre, ok. J'ai mangé cachère. Mais t'as eu le souci de manger cachère? Tu bien sûr, je mange cachère. Ah bon, comment tu fais pendant la foire? Ah, la foire, c'est compliqué. Alors tu manges pas cachère. Donc comme tu manges pas cachère à la foire, même quand tu vas chez Salomon, tu manges pas cachère. Parce que tu n'as pas le souci de manger cachère. Tu veux pas manger cachère. Tu manges cachère parce que c'est pas ça. Parce qu'il y a des copains là-bas. Parce que t'as honte que les gens ils te voient rentrer chez le spécialiste du porc de Milan. Tu dis non, je vais aller exprès manger cachère. Et pendant la foire, je vais amener des sandwichs exprès. Parce que la mitzvah, c'est pas d'aller à la foire. La mitzvah, c'est de manger cachère à la foire. La mitzvah, c'est de dire au goy, excusez-moi messieurs, demain, je ne pourrai pas venir parce que c'est Shabbat. Pardon? Oui, c'est Shabbat demain. Demain, c'est Shabbat.
Les foires, ils le font toujours de Shabbat.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs dans les foires. Parce que sinon, il les aurait fait dimanche, et là, ça aurait été la foire. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il faut bien une épreuve. Comme les gens te disent, mais le meilleur jour, c'est le samedi. Quelqu'un m'a dit, monsieur le rabbin, je suis prêt de chômer Shabbat. Mais le problème, c'est que ça tombe samedi. Il m'a dit, le problème, ça tombe samedi. Je dis, écoutez, le vendredi, c'est déjà pris. Vous êtes au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus. Il reste que le samedi. Bon. Ici, c'est marqué une chose incroyable. Ça veut dire que quand quelqu'un, il arrive à rentrer dans cette dynamique, quand il a attrapé le but, il voit toujours la trame des choses. C'est-à-dire, c'est comme de manière transparente, tu vois le lien. Ouais. Par exemple, toi, tu ne regardes pas ton fils, tu regardes le projet que tu as pour ton fils. Toi, tu ne regardes pas l'événement. Tu regardes est-ce qu'il s'inscrit, est-ce qu'il fait grandir mon fils ou il ne fait pas grandir mon fils. Toi, tu ne regardes pas un homme et une femme, tu vois un couple. Toi, tu ne vois pas un produit, tu vois un potentiel d'argent. Toi, tu ne vois pas une définie, tu vois un lien avec HM possible. Toi, tu ne vois pas un barcat Amazon, tu vois une occasion de te concentrer sur HM. Ce n'est pas des textes maintenant. Ça, c'est de la digestion. Tu dis, non, voilà, j'ai 3 minutes maintenant, je vais faire un barcat, de toute façon. Alors, est-ce que je vais faire un barcat pour me rapprocher d'HM ou est-ce que je vais faire un barcat comme ça parce que je suis obligé, c'est écrit dans la Torah. C'est chaque chose, je donne un sens, un sens, un sens, un sens. Maintenant le fait de...
L'important, c'est de faire un barcat.
Ouais.
Après, la raison, on le laisse pour le bon Dieu.
Non, j'ai pas dit, je ne parle pas de donner une raison. J'ai dit que quand je le fais, moi, je m'en sers pour me rapprocher d'HM. Mais si je le fais en pensant à ma voiture, je le fais, je comprends même pas les mots.
Si je le fais parce que je dois le faire aussi, c'est la
D'accord. Alors, on va voir la différence. Si, ça, par exemple, ça fait 35 ans que tu fais le verre 4, tu comprends pas toujours pas la traduction. Le R3, c'est ça. Parce que quand tu vas signer un contrat pour acheter un immeuble à 122 millions d'euros et qu'il est en russe, tu demandes la traduction ou tu signes?
Non, je demande la traduction. Même en hébreu, c'est écrit en hébreu. Surtout si c'est écrit en hébreu.
Donc ça prouve que ça t'intéresse plus l'argent que le bac à ta raison. Parce qu'au bout de 33 ans, tu n'as toujours pas lu le contrat. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pas grave. Encore une fois, moi je parle de projets, je parle de choses qu'on est en train de travailler. Mais c'est bien de se poser un jour la question. Parce qu'après, les gens ils disent, oh, vous savez, j'ai plus de goût dans la prière, j'ai plus de goût dans la Torah, j'ai plus de goût. Mais bon, mais combien on peut faire le singe? Combien d'années?
Combien d'années on peut faire le...
Le singe. C'est pas un cours particulier. Hein. Ah là, c'est 12 000 euros le cours particulier. Donc c'est quoi l'idée? Un singe.
Chimie.
C'est-à-dire que c'est très important, ouais, que quelqu'un... En fin de compte, il va avoir cette dynamique. Pourquoi? Parce que cette dynamique, c'est pas simplement que quelqu'un est tout le temps en mouvement. Parce que c'est cette dynamique qui capte les énergies. Ouais. Tu fais bien vers Kat Amazon, tu te sens plus fort. Tu écoutes bien ta femme, le lien il s'est créé. Maintenant, tu réfléchis au problème de ton fils, d'un seul coup, il commence à t'aimer plus. Maintenant, tu t'intéresses à son étude, alors que l'étude, elle devient importante. Maintenant, tu regardes la maison, elle devient belle. Chaque chose, c'est comme ça. Chaque chose dans laquelle tu t'investis, ouais, tu mets du positif et tu tires du positif. Tu mets du positif, tu tires du positif. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils survolent. Ouais. Ils ont le souci du travail. Oui, le petit, il a fait des bêtises à l'école. Mais ça fait pire, après, énerve. Alors lui, il comprend rien. Il dit, moi, j'ai fait des bêtises à l'école pour que tu t'occupes de moi. Maintenant, toi, tu me dis, tu me saoules avec tes problèmes, alors tu te débarrasses de moi. Alors moi, je vais faire encore plus de bêtises, comme ça, tu vas plus t'occuper de moi. Tu dis, mais je peux pas tout faire. J'ai des soucis au travail. Alors pourquoi tu rentres à la maison? Dors au travail. Tu parles avec ton photocopieur, tu parles avec le téléphone, comment ça a été la journée? Il va rien dire. Le photocopieur. Et il dirait, il est quoi pas? Tu rentres chez toi, c'est une autre journée qui commence. Ton mari rentre à la maison, c'est une autre journée qui commence, c'est comme ça. Maintenant tu vas prendre des énergies. L'autre jour, avant Shavuot, un Shalom Bayit me téléphone du Canada. J'ai pas pris la douche. J'ai dit, écoute, je dois prendre la douche. Et la femme en train de pleurer, l'homme en train de pleurer, en train de crier, les deux. J'ai dit, ils vont passer un Shavuot, ces deux-là, ils vont mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris j'avais le numéro de la femme, le numéro du mari. Quand j'ai fini de parler avec la femme, j'ai appelé le mari, j'ai dit, écoute-moi bien. Shavuot, ils rentrent dans un quart d'heure, j'ai pas pris ma douche encore. Je vais aller prendre la douche. Écoute bien ce que je vais te dire. tu vas, ta femme, elle a besoin. Non, j'ai dit à la femme, j'ai dit, ton mari, il n'a besoin que d'une chose, de ton sourire. C'est tout ce qu'il a besoin. C'est tout ce qu'il a besoin, il veut que ton sourire. C'est tout. Il peut te donner 1 million d'euros, il peut se dépenser, il peut défoncer tout, il peut tout casser, il veut ton sourire. C'est tout.
Ils se sont calmés.
Bon, moi maintenant j'ai raccroché. Elle m'a envoyé un email, je l'ai lu après chaque fois. Elle m'a dit, écoute, le garçon, il m'a dit, j'ai passé 3 jours extraordinaires, on était proches, maintenant ils allaient défoncer.
Avec le sourire.
Le problème, c'est combien coûte le sourire de la femme. ma chère femme, ma très chère femme, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est une des choses les plus chères du monde, vous pouvez pas imaginer. J'ai toujours dit, tu veux le sourire, c'est très cher. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord. Si tu veux le sourire,
faut payer.
Maintenant, quand tu lâches et qu'elle a le sourire, elle amène la bracha dans la maison. Si elle s'angoisse, halet la parnassa. C'est comme ça. C'est le robinet. D'accord? Donc c'est quoi l'idée ici? C'est que maintenant, quelqu'un en a dit, quand il a fixé ce point transparent qui existe entre les choses, la trame des choses, le taklit, le but, il ne lâche pas ça. Comme si c'est comme si le marin, il est dans la tempête, vous voyez? Il y a les vagues qui viennent par là, et lui, il y a un qui regarde la boussole. Déjà, il dit, fais attention, il dit, non, laissez-moi tranquille, il regarde la boussole. C'est pareil. Ici, toi, tu ne dois jamais perdre la boussole. Pourquoi tu t'es marié? La boussole. Pourquoi tu avais des enfants? La boussole. Pourquoi tu as fait tes chouvas? La boussole. Et pourquoi tu crois en Dieu? La boussole. Tu gardes la boussole. Si tu lâches la boussole et tu regardes la réalité quotidienne, c'est fini. C'est terminé. Tu perds. Ouais. Tu perds. Tu arrêtes de regarder la boussole, tu commences à regarder la voisine. Tu arrêtes de regarder la boussole, tu t'occupes de ton travail au lieu de t'occuper de tes enfants. Tu arrêtes de regarder la boussole, tu dis, écoutez, finalement, j'ai lu un livre de Descartes ou de Tracquart ou d'Aquava. Mais on a tous ça chez nous. Les gars, ils sont jaloux de la Torah, et nous, on va chercher chez eux. Mais eux, ils ont piqué chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu as lâché la boussole. Et cette logique-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la fin, le positivisme, ça devient comme une drogue. C'est-à-dire que t'es tellement bien, oui. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, ça va tellement bien avec la femme, avec tes enfants. Qu'est-ce que tu vas mettre de l'autre côté pour détruire ça? T'as compris ou non? On a commencé en disant que quelqu'un, quand il a le choix, il a la tentation du mal. Mais quand dans la balance, il a mis tellement de bien, comment le mal il va venir? Vous suivez ou non? C'est que moi et ma femme, on a travaillé la communication, la confiance, le bien-être, on est heureux. Donc quand elle vient à une tentation, elle va faire une bêtise, je vais faire une bêtise, on va avoir une remarque de la belle-mère, on va perdre un chèque, on va avoir un problème. Ça, c'est une tentation de faire la pagaille. Si on a le contrepoids positif, on va annuler ça. Donc pourquoi les gens, ils arrivent à détruire leur quotidien? Parce qu'ils n'ont pas le contrepoids. Ils n'ont pas capitalisé. Alors que si tu dis, mais ça va pas la tête. J'ai mis 10 ans pour avoir la confiance avec ma femme, je vais la détruire 5 minutes pour un décolleté ou le problème. Je veux pas le mettre. Pourquoi je vais gaspiller ça? Mais celui qui l'a pas construit, il peut le brader puisqu'il n'a rien en face. Donc c'est quoi? C'est comme les phares. Quand vous roulez avec la voiture la nuit, il y a le phare de proximité et le plein phare qui voit loin. Ouais. Alors, le phare qui voit loin, c'est la Emouna. Et le phare de proximité, c'est quoi? C'est l'investissement au quotidien, c'est le positif. Donc quand je suis dynamique, je pédale, comme quand tu as fait du sport par exemple, tu devrais être crevé. Eh bien c'est marrant, ça développe l'énergie que tu as envie encore de faire. Alors c'est pareil maintenant. Quand tu travailles ton couple, tu n'as pas de problème de couple. Parce que ton couple, il est en mouvement. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu n'as pas de problème avec tes enfants. Parce que tu t'occupes d'eux. Quand tu t'occupes pas, tu as accumulé des lacunes, des souffrances, des bêtises, des séparations, des frustrations, des incompréhensions qui créent des problèmes. Donc les problèmes, ils viennent du manque de travail. Donc le secret du positivisme, c'est le mouvement. C'est pour ça que c'est ça la vie. C'est pour ça que la mort, elle génère l'impureté. Et l'impureté, c'est toujours synonyme de l'immobile. Par contre, ce qui est pur, c'est vivant. Mein Heim. On peut pas, si on veut se tremper dans une rivière qui coule, c'est bon. Si c'est une eau qui n'est jamais régénérée, on peut pas se tremper dedans. C'est pas caché. Un lac. Pourquoi on peut se tremper dans un lac? Parce que l'eau, elle est régénérée par une source. Si c'est une eau stagnante, on ne peut pas se tremper dedans. Oui, t'en es pas. Parce qu'elle n'est pas vivante.
Dans la mer morte, on ne peut pas.
Pour une femme, pour une femme. Pour un homme, même une piscine, c'est bon. Mais pour une femme,
ouais, non, vraiment,
il faut mal Ibrahim.
Est-ce que vous rigolez?
Le problème, c'est que dans la mer morte, vous ne pouvez pas mettre la tête dedans.
Non, la tête, non.
Alors, on ne peut pas tremper à moitié.
Le corps, hein?
Non, tu ne peux pas tremper à moitié.
Jusqu'ici.
Ça ne marche pas. Le mikvé, c'est entièrement.
Moi, je l'ai fait mille fois.
Il y a même qui arrive à allumer la lumière Shabbat. Ça,
moi, je reçois jusqu'ici.
Oui, mais ça ne s'appelle pas tremper au mikvé. Quand quelqu'un est impur, il a touché un mort. À l'époque du Mashiach.
Moi, je parle de ça. On ne peut pas. Dans la mer morte, je bénis.
Vous pouvez. Non, mais est-ce que ça enlève l'impureté? Mais ça n'enlève pas l'impureté. On parle de.
Au même mec. Il a parlé de lac, il n'a pas parlé du mikvé. Moi, je suis.
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que quand quelqu'un est impur, il va rentrer dans une eau. Cette eau, elle doit être vivante. Ça, c'est marqué Maim Haim. Maintenant, c'est quoi une eau vivante? C'est une eau qui est régénérée.
Je vous avais dit qu'on ne peut pas entrer dans un lac avec l'eau stagnante. Un lac, un
voilà.
Grand
lac. Voilà.
La mer morte, c'est un grand lac. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, mais elle est régénérée quand même, l'eau, parce qu'il y a de l'eau qui tombe dedans. Elle ne reste pas tout le temps là. Bah oui, sinon, comment elle. Sinon, elle baisse. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire maintenant, frère? Nous, on veut.
On est à nous de crèche.
Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est quoi? C'est que vivant, c'est ce qui bouge. Ouais. Ce qui est vivant, c'est ce qui bouge. Et quand ton couple, il est régénéré, il est vivant. La relation avec tes enfants, elle est régénérée. Tu ne peux pas avoir les mêmes rapports avec un enfant de 8 ans qu'avec un enfant de 18 ans. Ce n'est pas la même relation. Si tu as les mêmes relations, c'est que ou tu n'as pas vu qu'il a grandi, ou ça te fait peur qu'il grandit. Alors tu fais comme s'il n'a pas grandi. Ouais. Ben, la vie, c'est pareil, ta femme, elle évolue. C'est normal. Ta Torah, elle évolue. Tu as étudié 5 ans. Tu vois la Torah d'une manière. Tu évolues, tu étudies 10 ans, tu ne vois pas la même Torah. Ah, à chaque fois que ça te fatigue, à chaque fois que tu trouves ça lourd, c'est parce que tu regardes avec l'ancien regard. Im shamoa tishma. Si tu as étudié, tu vas étudier encore. Mais dans tishma, c'est quoi? Que quelqu'un il met sa tête dedans. Quand tu mets ta tête, la chose, elle est belle. Quand tu ne mets pas ta tête, elle est toujours moche. N'importe quel domaine, n'importe quel. La chose la plus débile du monde. La plus débile du monde. Ouais. Même ce métal là, si je te dis voilà pourquoi ce métal il est noir et celui-là il est doré, ben, tu me dis ben, c'est pas le même. Tu me dis j'en ai rien à faire. Ah bon, je vais t'amener un spécialiste, un fou du métal. Ouais, un fou du métal. Il va t'expliquer, il va dire tu comprends, ce métal là il s'est oxydé à une certaine température, c'est pour ça que ça a provoqué cette couleur. Et le brillant que tu vois à l'intérieur, c'est les particules, les atomes qui. Et celui-là il va te mettre tellement de passion, même toi tu vas te dire c'est vrai, j'ai jamais regardé, c'est passionnant. Tu vois, quand tu mets de la passion, ça devient passionnant. Alors si déjà quelque chose de complètement débile, quand tu mets de la passion, ça devient passionnant. Alors tu dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de passion dans notre couple? Parce que tu ne mets pas de passion. Si tu mets de la passion dans la Torah, elle devient passionnante. Tu mets de la passion dans tes enfants, elle devient passionnante. Tu mets de la passion dans Dieu, il devient passionnant. Les gens, non. Les gens, ils croient que la chose, elle doit venir. Ça s'appelle, ils sont spectateurs de la vie. Ils attendent. Alors, je vais voir qu'est-ce que tu vas m'organiser comme vacances. Je vais t'organiser des vacances pourries. Mais si tu viens avec l'ambiance, on va passer des bonnes vacances. Alors, si toi, t'attends, tu dis, j'attends. On va voir de quoi. On va voir ce que tu vas faire. C'est quoi? Je suis acteur, t'es spectateur. C'est quoi? C'est un spectacle à vie, quoi. On est les deux, on est acteurs, c'est notre maison. Ça va bien se passer, il y aura une bonne ambiance, c'est notre maison. On va faire un bon Shabbat. Maintenant, il y a 20 000 euros de bouffe. Ou il y a deux sardines, on va passer un bon Shabbat. Parce que déjà, on est venu pour passer un bon Shabbat. Ça va? Mais si je dis non, je peux pas. Parce que là, je cherche quelque chose pour que ça aille mal, alors ça va aller très mal. Et grâce à Dieu, ça, chaque Shabbat, ça en passe. Une amma d'étouffement de nerfs. Encore une petite remarque, encore un pic, encore un. Chaque fois que tu parles à l'enfant, et ça va pas, et je suis déçu, c'est pas normal, pourquoi? Non, normalement, tu dois lui mettre 80% de compliments et 20% de médicaments, parce qu'il est amer. Tu lui mets les médicaments, il sait que je l'aime. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Moi, j'avais dit ça, je connais un rave, pourtant il est ashkenaz, hein, ça m'a rien dit. Il ne fait jamais de reproches à ses enfants. Tu vois les enfants? C'est très dur. Hein? Que des compliments. C'est dur de voir. Donnez-moi une balle de baseball que je lui explique l'importance. Que des compliments. Maintenant, tout ce que tu peux atteindre par les encouragements, tu peux les atteindre par la pression. Quelle différence? C'est que quand toi tu mets la pression,
ouais,
pour toi, tu le vis comme un encouragement. Mais quand toi tu donnes des encouragements à l'autre, pour toi, tu le vis comme une pression. Donc tu décides où est-ce qu'elle va aller la pression. C'est dur de faire des encouragements à quelqu'un qui a fait une erreur. Donc tu te mets la pression pour encourager. Donc c'est ou toi qui vas avoir la pression, ou c'est l'autre qui va avoir la pression. Maintenant, quand toi tu mets la pression, tu ne sens pas que ça fait mal. Il y en a même qui kiffent ça de voir que les autres, ils ont peur, ça les fait kiffer. Ils en profitent encore, ils ont l'instinct du nazi qui ressort. Ils voient que l'enfant il pleure, il fait encore plus. Ah! Parce que ça leur fait quelque chose comme ça de voir l'enfant. Il fait pipi sur lui, ça les excite. Allez, il est malade. Ouais. Tu dois faire l'inverse. Non seulement que ça ne fait pas, ça ne t'excite pas, mais en plus que tu développes une énergie positive. Tu dis, mais où je vais trouver l'énergie positive? Je dis, bah, c'est ça la différence entre les enfants et les adultes. C'est que les enfants, eux, ils sont au premier degré, ils n'ont pas de recul. Donc, ils réagissent comme ça instinctivement. Alors que toi, grâce à Dieu, tu as compris le problème et tu as vu d'où ça venait et tu veux que ça s'arrange et tu prélèves dans ton projet positif d'éducation et tu lui donnes pour que l'enfant évolue. Donc, lui, il ne sait même pas qu'il y a un problème. Et comme une fois, des gens, ils viennent, écoutez, Raph, j'ai un problème. Je dis, il n'y a pas de problème, on va avancer. Après qu'on a parlé, je dis, il n'y a pas de mais. Donc toi, tu es venu pour me dire, je veux arranger, et moi, je t'ai donné une solution, et toi, tu la prends et tu l'acceptes. Il y a des gens, ils disent, j'ai un problème. Ouais. Toi, tu leur donnes une solution, ils disent, oui, mais. Donc, ils ont gardé leur problème et ils ont refusé ta solution. Ils n'ont rien.
C'est bon.
Combien de fois? Je m'avais posé une question. J'ai répondu, c'est tout. C'est tout. Ah, mais, il n'y a pas de mais. Ou tu acceptes et tu travailles, ou tu n'acceptes pas. Maintenant, si tu refuses, tu mets du savon sur toi. Alors, les reproches, les obligations, les devoirs, ils disent. Alors après, tu dis, bah, vous savez, je ne suis pas satisfait, je ne sens pas que vous m'avez compris. Parce que toi, tu voulais un spectateur pour ta douleur. Tu voulais que je me mette avec toi pour insulter l'autre, mais je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je vous ai regardé les deux de manière objective. Je t'ai dit, toi, je pense qu'il faut travailler sur ça, et toi, je pense que tu dois travailler sur ça. Maintenant, tu peux dire oui, tu peux dire non. Il y a des gens, non, vous ne m'avez pas compris, Vous auriez dû vous mettre de mon côté et dire à l'autre, comme je pense moi, que l'autre a 100% tort. Malheureusement, c'est pas comme ça. Malheureusement, c'est minimum 50-50. Minimum 50-50. Des fois, il y en a qui disent 70-70, puisqu'il y a les 20% de la réponse qui intervient. Mais c'est minimum 50-50. Donc 50%, c'est de la faute du mari, 50%, c'est de la faute de la femme. D'accord? Ça, c'est quand on regarde le problème dans sa globalité. Donc c'est pour quelqu'un d'extérieur. Mais la personne elle-même, elle ne peut pas dire 50-50. Elle doit dire, elle regarde ses 100% à elle, et l'autre, il regarde ses 100% à lui. Mais alors, c'est possible que tes 100% à toi ne constituent que 20% du problème. Mais c'est quand même tes 100% à toi. Donc toi, tu vas gérer à 100% les 20% du problème. L'autre, il sait qu'elle a un mauvais caractère, c'est qu'elle est nerveuse, c'est qu'elle est à l'heure. Bien que c'est que 70% parce qu'elle a la mauvaise manière, mais au fond, elle a raison. Donc elle a 70% de défaut parce qu'elle emploie la mauvaise manière, mais elle a 30% de qualité parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Donc il faut qu'elle gère la manière. Mais si elle continue à penser que les 30% qui sont vrais, ils constituent le principal, c'est pas grave la manière, ça ne s'arrange jamais. Parce que l'autre, il est bloqué sur la manière, l'autre, il est bloqué sur la raison, et ça tourne en rond. Non, donc ça veut dire quoi? Non, c'est des clés, je donne des clés. Ouais. Donc en fin de compte, la vie, c'est quoi la vie?
La vie, c'est des lunettes.
Par exemple, là, des lunettes. Ouais, je vous vois flou, là. Ouais, je fais ça. Ouh là là, je vois chaque sourire, je vois chaque personne, je vois chaque lumière.
Eh bien, c'est exactement pareil. Le coup, c'est des lunettes.
Tu mets des lunettes, tu veux. Ah, mais c'est clair.
Tu mets des lunettes.
Oui. Tu cherches ton pourcentage de tort, ton pourcentage de raison. Au lieu de chercher le problème, tu cherches la solution. C'est des lunettes. Quand tu mets la lunette, tu vois clair.
Ouais.
C'est ce qu'il a dit le gars de Vina. Il a dit, les machar, tifke me asher ayom tisraël. Demain, tu vas pleurer sur ce qui t'a fait rigoler. Ce qui t'a fait rigoler. Ouais, un jour. Demain, tu vas pleurer sur ça. Pourquoi tu as rigolé? Et le contraire, ce qui t'a fait pleurer, un jour, ouais, tu vas rigoler. Tu veux dire, je me suis angoissé pour des petits problèmes à 20 000 euros. Maintenant, grâce à Dieu, les petits problèmes à 20 000 euros, ça me fait rigoler. Maintenant, je dois gérer un 2 millions d'euros. Donc un jour, tu vas pleurer sur ce qui t'a fait rigoler. Maintenant, plus que tu sais que tu vas pleurer sur ce qui t'a fait rigoler, et que tu vas rigoler sur ce qui t'a fait pleurer, donc tu vois qu'en temps réel, l'énergie que tu mets, elle sert à rien. Le gaspillage, ouais, l'angoisse, ça sert à rien. Parce que de toute façon, maintenant, toi, en temps réel, tu sais qu'un jour, ça va changer. Tu sais que ton regard, il va changer. Tu sais que ta maturité, elle va te faire grandir. Donc ça sert à rien de t'angoisser pour les choses. C'est pour ça que ça dit la Mishnah, qui est chère. Kishem chez Mevarechim à la Tova, car Mevarechim à la Rara. La manière qu'on doit dire une bénédiction, on dit Baruch Hashem pour le bien, on doit dire aussi Baruch Hashem pour le mal. Quelqu'un, le Alenu, qui a entendu qu'il a un mort dans la famille, il doit dire Baruch Dayan Emet. Mais si de ce mort, il a touché un héritage de 2 millions d'euros, il doit dire Chehianou, Vekiemanou, Vekianou, Vazemanazé. Alors il dit, je me sens un peu partagé. On dirait des cornichons aigres doux. D'accord. J'ai une amma et de l'autre côté. Mais c'est quoi? Alors si quelqu'un il va dire, mais j'arrive pas, comment je vais dire Baruch Hashem sur du mal? Je peux pas. Alors encore une fois, les enfants, ils cherchent ce qui leur fait plaisir. Les adultes, ils cherchent qu'est-ce qui a un sens. Tant que tu es un gamin, tu cherches les choses qui te font plaisir et les choses qui te font de la peine. Quand tu es un adulte, tu comprends qu'en réalité, tout est pour le bien. Parce que tu as la émouna que tout ce qu'Hachem est fait, c'est pour le bien. Donc le vrai problème, c'est pas que c'est pour le bien. Le vrai problème, c'est est-ce que toi, tu vas le prendre bien. Maintenant, pourquoi tu vas le prendre bien? Parce que tu vas l'inscrire dans une logique qui est bien. Maintenant, puisqu'on a dit qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. C'est-à-dire que ce qui a l'air d'être mal, ça, quand ça s'inscrit dans un but, ça devient positif. C'est-à-dire qu'on dit « Kol de'a ramana l'état ». Tout ce qu'a fait Hachem, c'est pour le bien, c'est Tov. On a expliqué déjà Tov, c'est quoi? C'est Shalem. Donc, « Kol de'a vidrachamana ba le'ashlim ». Tout ce qu'Hachem fait, ça vient pour me compléter. Maintenant, quand moi je vois comment la chose, elle me fait grandir, ça devient du bien. Donc, c'est quoi bénir? Bénir, c'est développer le bien, c'est la tzmiya, ouais. Faire pousser le bien. C'est ça, bénir. Baruch, c'est ça, c'est source de génération, de bénédiction. Donc, quand moi je vois du mal et je bénis le mal, ça veut dire que je cherche dans le mal le bien qu'il y a dedans. Donc, comme j'ai confiance dans le bien et que je vois le bien qu'il y a dans le mal, donc le bien, le mal, il va devenir bien. Quand le bien, il contient du bien, et moi je reconnais le bien qu'il y a dans le bien, je fais sortir le bien qu'il y a dans le bien. Si quelqu'un dit, mais le bien qu'il y a dans le bien, j'ai pas besoin de le faire sortir. Non, il y a des gens qui connaissent pas leur bonheur. Il y en a un obligé de leur enlever leur bonheur pour qu'ils comprennent leur bonheur. Tu as la santé, tu as des amis, tu as des frères, tu as la parnassa. Tu dois dire chaque chose, tu dois dire merci, 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 bah au prochain, bah au prochain, bah au prochain, bah au prochain. C'est énorme, 4 millions d'euros, l'immobilier, tout ça c'est rien, ça peut partir comme ça. Tu as fait un mauvais placement, un mauvais truc, la banque est bien, prend tout. Moi je connaissais des gens à Miami, et le yacht, et des hôtels, et des babas, ils ont triché avec les impôts américains, ils en ont tout pris. Tout, rien, le mec qui est comme ça tout nu, en prison en plus. Ouais. Un autre à Paris, ils avaient 19 ou 20 magasins de Socolu, ouais. 253 employés, le mec ils lui ont tout pris, du jour au lendemain. Tout, rien du tout, c'est lui, tout nu. Pourquoi? Ah ben, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, il a de l'humour. Plus tu crois que tu maîtrises tout, plus il t'explique bien qu'il, mais c'est lui qui maîtrise tout. Donc c'est quoi l'idée? La pérennité, la sécurité, en vérité c'est des illusions d'optique. La question c'est de savoir, est-ce qu'en temps réel, maintenant que tu as, qu'est-ce que tu fais avec? Tu dis merci ou tu fais de la gava? Tu fais de la gava? Alors mon Dieu, il dit, je vais te donner des exercices de ranava. Tu te prends pour le patron, et le patron, tu dis, tiens, la bonne elle rentre, tout de suite c'est une esclave sexuelle. On va t'expliquer. On t'explique très bien. Comment du haut tu tombes par terre?
Ouais, nous avons le grand exemple.
Ah, tiens, c'est vrai, vous me faites penser.
Un pensée.
En plus, ça s'est passé Shabbat. Au lieu de faire qu'il douche, il a fait Hiloul. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée en bataille, c'est pas shoot. C'est qu'une personne, en vérité, elle va prendre le bien qu'il y a dans le bien. Parce que même le bien qu'il y a dans le bien, si tu le bénis pas, il va pas se développer. Tu vois le bien qu'il y a dans ton fils de 14 ans, quand tu as confiance dans le bien de ton fils de 14 ans, il va devenir le bien de ton fils de 15 ans. Quand tu vois le bien de l'année dernière dans ton couple, ça va faire le bien de l'année prochaine dans ton couple. C'est ça les anniversaires. Pourquoi on fait les anniversaires de mariage? C'est pas pour compter les années, de toute façon, ça a pris perpétuité, ça sert à rien de compter. Ouais. C'est pour faire le bilan. Chérie, cette année, grâce à Dieu, nous avons réglé le problème de la communication, nous avons travaillé sur la confiance, nous avons la proximité, nous avons la clarté. C'est ça l'anniversaire. On fait le bilan pour le positif pour l'année prochaine. Et bien, ces forces-là qu'on prend, ça nous donne pour l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Le Satan, il fait quoi? Tu prélèves le négatif. Donc l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais? Tu cumules l'arme. Donc de dire, Baruch Hashem, quand tu dis à Dieu Baruch Hashem, Hashem il va déclencher les sources de bénédiction. Quand tu dis à ta femme, Chazak ou Baruch, je suis très content, elle va faire encore mieux. Tu dis à ton mari, extraordinaire, elle va faire encore mieux. Tu as béni, c'est ça bénir. Tu bénis l'enfant, tu amènes encore mieux. Jacob, il a béni ses enfants, c'est pas pour qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, il a béni pour que chacun il devienne le meilleur de lui-même. Tu déclenches. Maintenant, même toi, tu peux te bénir. C'est-à-dire que quand toi, tu as confiance en toi et tu as confiance que Hachem, ce qu'il t'a donné, c'est bon pour toi, mais ça déclenche une énergie positive extraordinaire. Donc ça veut dire quoi, peut-être? Ça veut dire qu'en vérité, la clé du problème, elle est à l'intérieur de nous. Après, si vous avez compris le cours, c'est que même si j'ai passé une grande partie du cours à parler du problème, en fin de compte, ce problème-là, ça devient la solution. C'est pour ça que juste, vous avez bien choisi le thème dans la paracha qu'on va dire Béalotra, parce que Béalotra est un érote. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un keli, on met de l'huile, on met une mèche, on allume, ça brûle. Le keli, c'est quoi? C'est le monde. L'huile, c'est quoi? C'est la matérialité. La mèche, c'est quoi? C'est l'homme. Parce que l'homme, il est debout, comme le... Ouais. Et c'est le lien entre quoi? Le monde matériel et le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quoi? C'est l'air. Maintenant, une flamme sans air, elle ne peut pas s'allumer, elle ne peut pas brûler. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas puiser de l'huile et tu vas brûler. Donc on va gagner de l'argent, on va manger, on va faire des maisons. Mais est-ce qu'il y aura la lumière dans cette maison? Oui. Maintenant, tu peux prendre une mauvaise huile et ça fait de la fumée noire et ça pourrit les murs et ça sent mauvais. Tu dis, c'est dommage. Tu rends de l'argent pourri, ça met une ambiance pourrie. Avec ton argent, tu pourris. Tiens, tiens, voilà du fric. Tiens. Oh, tu sais quoi? J'ai préféré la pauvreté. Depuis, avec l'argent, tu nous as pourri. Quelqu'un, il arrive à rester simple malgré qu'il a l'argent. Ça s'appelle que l'huile, elle est pure. Ou l'autre, avec son argent, il a pourri le monde entier. Alors, c'est de l'huile qui est impure. Le keli, c'est le monde. Donc, Dieu, de toute façon, il nous a donné chacun un keli. C'est notre monde, c'est notre foyer, c'est notre communauté. On va mettre de l'huile à l'intérieur. Ouais. Dieu va donner de l'huile. Toi, maintenant, tu dois être comme une mèche. Tu dois puiser de l'huile. Il y en a qui ne puisent pas. Alors, il brûle la mèche. Tu puises, ouais, et tu prends l'air. Alors l'air, elle fait une flamme magnifique. Ouais. Ça, Béalotra est un air. Quand tu feras monter les érodes, tu dis, mais c'est pas le problème de les faire monter. Si, il faut. Parce que c'est toi qui décides quelle huile tu mets, quelle ambiance tu mets, comment tu nettoies. C'est toi qui décides comment elle va être ta maison. Tu mets une maison de pureté, une maison d'impureté. Comment elle est ta bouche? Elle est positive, elle est négative? Comment elle est ton travail? Il est très loin. Il est de l'honnêteté. Comment elle est ta prière? Comment elles sont tes mitzvot? Comment elles sont tes... Chaque jour que tu peux faire, tu décides comment ça va se passer. Alors c'est donc tu vois bien que c'est toi qui fais monter l'huile. Ça va? C'est pour ça que les havas, la flamme, c'est exactement cette logique-là. Que tu as toujours dans ta tête, tu dis que tu es une flamme. C'est pour ça qu'on dit que le juif, il est comparé à la flamme. La flamme, comme la neshama, elle est comparée à la flamme. Maintenant, toi, tu peux avoir une flamme extrêmement brillante, extrêmement lumineuse. Et c'est ça le positivisme. C'est que quand toi, tu as développé chez toi cette flamme de positif, alors d'un seul coup, elle éclaire autour de toi. Tu génères du positivisme. Par contre, celui qui a développé la négation, maintenant, même s'il a des bonnes raisons, soit parce qu'il est victime, soit parce qu'il a trop souffert, soit parce qu'encore une fois, il croit que c'est comme ça qu'il va provoquer chez l'autre le bien-être. Qu'est-ce qu'il provoque autour de lui? Il provoque de la négation. Après, il dit, ouais, personne ne me parle, les gens ne m'appellent jamais, ils ne m'invitent pas. Mais tu as vu la tête de mort que tu fais? Et ça, c'est que les dégâts les plus extérieurs. Et donc, quelqu'un, il peut avoir cette force-là, et il va être en face. C'est pour ça qu'on dit que c'est ça qui va amener au Lamaba. Parce que qu'est-ce que c'est au Lamaba? Comment on l'appelle Tov? On a dit, c'est complet. Et comment on l'appelle au Lamaba? Olam Shekulo Tov. Ah, peut-être celui qui va à l'Olamaba, ouais, c'est celui qui était déjà Tov dans ce monde-ci. Maintenant, dans l'autre monde, tu ne peux être que Tov. C'est pour ça que celui qui est mal, il n'ira pas, il n'a pas besoin de se casser la tête. Par contre, ici, c'est pas facile d'être Tov. Parce que Tov, c'est complet. Et le monde, il est incomplet. Donc quand toi tu es en recherche perpétuelle du Tov, tu es Zohé l'Erolam chez Kulotov. Tu as le mérite de notre chaîne dans un monde qui sera entièrement bon. En fait de notre chaîne,
que ça soit un grand mérite pour toute la Keïla, que l'on t'en règle du Bessurot Tova de chaque personne à soi, dans des bonnes circonstances, une bonne santé, une longue vie. Et une bonne parnassa pour chacun, des bonnes vacances. N'oubliez pas que les vacances ne veut pas dire que votre rôle de juif va être vacant. D'accord ? Donc vous allez travailler, vous avez des cours à l'extérieur, ils sont là, vous les prenez, vous travaillez dessus. D'accord ? En plus, mon impresario pour Milan a décidé de faire des soldes aujourd'hui parce qu'il faut que vous partiez avec quelque chose. Au moins un cours, vous l'écoutez, vous travaillez avec. Mais si vraiment vous n'arrivez pas, ne le payez pas, c'est pas grave. Je préfère qu'il soit chez vous qu'en train de prendre la poussière ici. Et bien, Zant Hachem, on se retrouve en septembre.
Ciao.
Zant Hachem en bonne santé.
Le cours est dédié au Mishnah de mon père Abraham Shimon Ben Simcha.
Amen.
Merci pour
Eliaou
Ben Sara.
Amen. Chaim Ben Sara.
Chaim Ben Sara.
Ben Gershon ben Avraham.